Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir et une nouvelle série pour Matière à penser que nous vous proposons cette semaine. Habiter, demeurer, se loger. De la philosophie à la géographie, de l'anthropologie à l'architecture, de la sociologie à l'urbanisme et à l'histoire, la notion d'habiter traverse en effet toutes les sciences humaines et sociales du XXe et XXIe siècle et prise dans un sens plus large que se loger, elle engage sans doute tout notre rapport au monde. C'est en tout cas ce que nous allons demander à nos différents invités. Notion d'habiter qui pose des débats parfois très problématiques, majeurs en tout cas. Habite-t-on la terre? Habite-t-on le monde? Habite-t-on sa maison seulement? L'individuel doit-il l'emporter sur le collectif et comment? Habiter implique beaucoup de questions. Et qu'est-ce que vivent ceux qui n'habitent nulle part? Les SDF, les migrants, bien sûr, ceux qui ne choisissent pas leur logement, il en sera aussi question. Bienvenue à tous et bienvenue à notre premier invité, Thierry Paco. Bonsoir Thierry Paco.
Bonsoir.
Thierry Paco, philosophe de l'urbain, va vous présenter de cette manière. Vous avez enseigné longuement et produit beaucoup d'ouvrages sur la ville, sur l'architecture, sur l'urbanisme. Mais vous êtes philosophe et c'est de cette discipline-là que nous allons partir. Un philosophe en ville fait partie de vos ouvrages récents qui viennent d'être réédités, je crois. Comment entendez-vous ce terme, ces trois termes? Allez, habiter, demeurer, se loger. Je pense que vous allez assez vite vous débarrasser de demeurer et de se loger, ou pas?
Oui, bah, je vais commencer par se loger.
Qu'en dit le philosophe? Allons-y.
Alors, le verbe loger vient d'un ancien mot du vieil allemand qui signifie au vent et qui va donner logia en italien et qui va donner logis en français. Mais le logis au départ, et on le retrouve dans le vocabulaire militaire, c'est un campement. C'est un campement, donc on est maréchal des logis, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut retenir. Donc le mot loger, c'est s'installer quelque part, c'est être placé quelque part. Demeurer, c'est manere en latin, ça va donner manoir, ça va donner manant, ça va donner mar, le mar provençal, etc. Bon, plein de termes comme ça qui signifient s'installer. Mais il y a une dimension intéressante, c'est que ça veut aussi dire peupler. C'est-à-dire qu'il y aura une dimension d'aller peupler ce que les Grecs appelaient l'écoumène, qui était donc la terre peuplée, qui était opposée à la terre non peuplée, qui est le désert, l'érem, qui va donner ermite, ermitage, etc., etc. Donc on voit bien que l'étymologie, là, nous éclaire sur un certain nombre de points, et il faudrait, mais on n'a pas le temps maintenant, regarder dans d'autres langues, évidemment, ce qu'il en retourne. Alors maintenant, habiter, c'est le plus intéressant, me semble-t-il, pour nous. C'est un terme qui vient du latin, et qui a à voir avec l'habitude, et aussi avec l'habit. Mais l'habit, non pas au sens des vêtements, mais au sens du maintien. D'où l'expression populaire très connue, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai une robe de bure que j'ai le maintien, le statut, la position, la tenue du moine en question. Évidemment, des trois, c'est habiter qui est le plus riche, mais qui est aussi le plus polysémique. Et du reste, je pense que les cinq émissions vont décliner différents
Absolument.
Sens de ce
on
terme.
On l'espère. Alors, si l'on part de cette notion qu'est-ce qu'habiter, les philosophes ne se sont pas tellement intéressés à cette question-là. Oui, l'habitat, ça fait partie des...
Non.
On va en citer de très importants que vous appréciez.
Non, vous
appréciez,
avez absolument raison.
Pourquoi d'ailleurs?
Je pense qu'il se questionnait sur les grandes valeurs de la société, c'est-à-dire Dieu, le bien, le mal, l'amour, voilà, la mort. Bon, mais le fait de résider quelque part, le fait d'appartenir à un milieu, n'était pas leur préoccupation majeure. Il faut dire aussi qu'ils circulaient d'une certaine façon. Il ne faut pas oublier que Platon va aller en Sicile, par exemple, bon, et puis que le Macédonien Aristote va se faire Athénien. Donc il y a bien là une circulation des philosophes. Ils ne sont pas dans une préoccupation d'avoir une maison comme nous.
Ils n'ont pas la nostalgie du lieu qu'ils ont quitté, par exemple.
Si, bien sûr, c'est toute la poésie homérique et là-dessus, hein, c'est sur le voyage et la quête du retour, enfin du retour au pays natal.
Alors, habiter, donc c'est de cela que nous allons parler maintenant. On va peut-être sauter pas mal d'étapes, on ne va pas recourir toute l'histoire de la pensée et de la philosophie, mais il y a deux noms qui émergent, en tout cas vous les citez vous abondamment, mais je crois que d'autres vont le faire aussi, Martin Heidegger et Gaston Bachelard.
Alors, il faut les séparer.
Pourquoi ces deux-là, séparons-les, prenons-les dans l'ordre.
Il y a eu une étude qui a été faite.
Parce que quand on travaille sur ce thème habité, on les retrouve partout. Ah, quand
oui,
même,
oui. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, on a fait une étude de toutes les références livresques de Bachelard et de toutes les fois où il cite des personnes. Et dans toute son œuvre, il ne cite qu'une seule fois Heidegger qu'il n'apprécie pas du tout, philosophiquement parlant. Il ignore totalement les préoccupations et l'engagement nazi ou pas de Heidegger, c'est pas son sujet. Il faut bien les distinguer parce que ce sont tous les deux des phénoménologues, mais ils n'ont pas du tout la même approche. Commençons chronologiquement par Heidegger, parce que Heidegger va prononcer une conférence à un colloque de Darmstadt en 1951 consacré à l'espace et à l'homme, l'homme dans son espace, et nous sommes dans une Allemagne de l'après-guerre qui est détruite. Il faut bien l'avoir en tête qu'en 1951, les bombardements alliés qui ont couronné la victoire, évidemment, ont démoli des villes, parfois à 80%. Donc la population cherche des logements, il y a des campements de toile, on oblige les grands propriétaires de grands appartements de les partager avec d'autres. Donc il y a des réquisitions, il y a des restrictions, etc. Et puis Heidegger intervient dans ce colloque et il dit « il n'y a pas de crise de logement ». C'est un culot inouï, enfin c'est même, on pourrait presque dire, irresponsable. Évidemment, il y a une virgule, mais il y a une crise de l'habitation. Les humains, dit-il, les hommes, ont perdu le sens de l'habiter. Ils ne savent plus habiter la Terre. Donc la vraie crise, c'est la crise de l'habiter. Et l'article de cette conférence s'intitule « Bâtir, habiter, penser », sans aucune virgule, parce qu'il saisit les trois verbes ensemble. Ils ne les hiérarchisent pas. Il n'y en a pas un qui précède l'autre. Ils vont ensemble parce que, ensemble, en allemand, il y a une parenté étymologique qui n'existe pas dans notre langue. Donc c'est beaucoup plus difficile à saisir. Bâtir, habiter, penser, pour Heidegger, c'est, ça s'interpénètre l'un et l'autre. On ne peut pas habiter sans penser, on ne peut pas penser sans bâtir, on ne peut pas bâtir sans habiter, etc., etc. Et donc, derrière ça, pour aller très très vite, je traduirais le verbe wohnen, habiter, d'une manière un peu différente en français pour que comprennent mieux. Habiter, c'est être présent au monde et à autrui. Voilà, je ferai un seul mot, un néologisme, ouais. À rallonge, hein, c'est être présent au monde et à autrui. C'est ça, habiter. Ça veut dire que l'être humain est un être jeté pour la mort, c'est une notion heideggerienne qu'on trouve dans son livre majeur, et traitant. Et là, il explique que le compte à rebours fatal débute dès que je nais, mais je ne sais pas quand je vais mourir, mais je sais que je suis un individu fini dans mon temps. Et le temps, pour Heidegger, est un temps pour, toujours un temps, pour quelque chose, y compris ne rien faire. Et ce temps pour se dépense, j'allais dire, dans une territorialité qui permet d'habiter.
Mais à ce stade, Heidegger ne parle pas d'habiter un lieu à soi.
Non.
La maison miroir de soi, qui doit être le titre de cette première émission, on n'y est pas là.
Non. Il y a la référence à la terre et au sol. Il faut distinguer les deux en allemand. Et pour être très clair, je ne pense pas que Heidegger soit en accord avec les nazis sur la question que le sol est fondateur. Est fondateur d'une race. Le terme Heimat qu'il utilise, c'est plutôt la terre natale, le terroir, que quelque chose qui serait une sorte de revendication qui attribuerait à certains une puissance raciale par rapport aux autres.
Toujours sur Heidegger, pourquoi cite-t-il Hölderlin, un poème? Parce que lorsqu'on recherche Heidegger, on trouve souvent cette phrase qu'il reprend, je crois, peut-être dans cette conférence dont vous avez parlé, « L'homme habite en poète ». C'est joli, mais c'est mystérieux.
C'est une très très belle phrase. C'est un poème, il faut le lire aussi là en entier. Hölderlin est un de ses poètes préférés. Il l'utilise abondamment pour réfléchir et le commenter. C'est dans un autre texte, une autre conférence, où il essaie d'analyser ce petit morceau de phrase « L'homme habite en poète ». C'est-à-dire que, pour lui, on ne peut pas habiter la terre simplement en ayant un logis. Pour reprendre l'expression tout à l'heure, ça suffit pas. Donner un logement à tout le monde, c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre d'habiter. Habiter a une dimension existentielle qui est parfois même indifférente à la notion de confort. Je peux très bien habiter une maison que vous et moi on trouverait plutôt pas terrible parce que y a pas l'eau courante, il y a pas l'électricité. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour Heidegger, c'est d'avoir un lieu où ma condition de mortel permet de ménager, je pense son terme à lui, c'est-à-dire de prendre soin de ce qu'il appelle le quadripartite, c'est-à-dire les divins, le ciel, la terre et les humains.
Gaston Bachelard, à présent, qui, vous l'avez dit, n'appréciait pas Heidegger.
Alors moi, j'apprécie les deux, donc ça facilite la tâche. Gaston Bachelard, lui, va écrire un magnifique ouvrage qui s'appelle « La poétique de l'espace » en 1957, dans lequel il essaie d'expliquer que tout être humain est le résultat des lieux dans lesquels il a séjourné. Les lieux au sens le plus large, pas au sens géographique. Et on pourrait commencer par le ventre maternel, évidemment. Là, on est dans une espèce de milieu qui va vous permettre de devenir qui vous êtes. Pour Bachelard, dans la poétique de l'espace, il analyse aussi bien la maison natale, on va y revenir, je pense, que le tiroir, que le petit coffret, que la boîte d'allumettes que tout enfant possède, où il met un marron, où il met un jouet en plastique, etc. Tout ça, pour lui, c'est constitutif de l'être humain. Un être humain qui serait dépossédé d'une maison, vous parliez tout à l'heure des SDF, pour lui, c'est effectivement un drame. Parce que ce n'est pas la condition humaine d'être ballotté entre deux pays comme un migrant et d'être nulle part chez lui. Il faut un chez-soi.
Et d'ailleurs, beaucoup de cultures ne l'acceptent pas.
Et beaucoup de cultures ne l'acceptent pas.
Les cultures occidentales, malheureusement,
le roi Gouran, qui est le grand préhistorien qu'on connaît, expliquait de manière assez subtile comment les premières maisons, à l'époque paléolithique, apparaissent en même temps que le langage. Alors c'est important parce que, pour Heidegger, il y a une formule magnifique dans Un cheminement vers la parole, qui est très compliquée, qui est la suivante. La langue est l'habitat de l'être. D'une certaine façon, je ne peux habiter le monde que si je peux nommer les choses qui font monde. Et moi qui nais, je ne nais pas, je viens au monde. Je viens au monde apporter mon monde dans le monde des autres. Et pour ça, il faut qu'il y ait un transmetteur, si je puis dire. C'est la langue.
Mais ma langue, donc ça veut dire que je
c'est
suis...
C'est ma manière, ma langue.
Ça veut dire que je suis de quelque part.
C'est-à-dire que je suis de quelque part et je suis surtout de quelqu'une, de ma mère. Alors, je parle la langue de ma mère.
Bachelard, encore lui, assez poétique également, la poétique de l'espace. Lui se réfère beaucoup à la maison natale. Est-ce que c'est si important que ça?
Alors, il faut préciser que Bachelard connaît bien Jung, qu'il apprécie énormément. Jung est l'auteur d'une œuvre abondante et surtout d'un concept qui est celui d'archétype. Et Bachelard considère que la maison natale est archétypale. C'est-à-dire que qu'on habite une tente, qu'on habite une roulotte, qu'on habite un appartement, on a dans notre inconscient individuel et collectif, l'image d'une maison qui a une cave, deux, trois étages et un grenier. La cave est le lieu de l'interdit, est le lieu du secret. Nous avons tous besoin de ça. Je ne révélerai pas ma cave, hein, rassurez-vous. Ensuite, on a deux, trois étages où on va hardiment grimper à l'escalier. Il insiste sur le fait d'être hardi. Et puis on arrive dans le grenier, qui est le lieu où on a entassé des tas de souvenirs, des tas de vieux objets, des robes, des vêtements de nos ancêtres, des précédents habitants de la maison. C'est le lieu de la rêverie. Donc la maison natale est un archétype. Et Bachelard va préfacer un ouvrage consacré au dessin d'enfants, où il constate avec plaisir, j'imagine, que tous les enfants dessinent une maison avec un toit, avec une cheminée qui produit ou non de la fumée. Il y a généralement
des volets
le soleil,
ouverts ou fermés.
Les volets ouverts ou fermés, voilà, etc.
Ça dépend de l'état psychologique.
Oui, parce que la maison peut être une maison revêche, peut-être une maison méchante. Hein. Il y a un très beau poème d'une poétesse libanaise que j'apprécie beaucoup, qui est le suivant, c'est « La maison au bord de la route était au bord des larmes, ses vitres prêtes à éclater en sanglots ». Eh bien, ça nous permet de comprendre très bien comment nous avons besoin d'un lieu hospitalier, d'un lieu accueillant pour pouvoir découvrir à la fois ce qui est en nous, mais aussi, pourquoi pas, nos propres limites, nos propres angoisses, nos propres inquiétudes.
Mais est-ce que ça veut dire qu'une maison, la maison natale, donc pour reprendre celle qu'étudie Bachelard, va nous suivre toute une vie, même si nous avons plein de façons d'habiter, on va y venir à l'époque contemporaine aujourd'hui,
absolument,
on n'habite plus du tout de la même manière qu'autrefois.
Ça nous marque à jamais, parce que l'enfance, c'est la nostalgie. C'est-à-dire que pour Bachelard, l'enfance n'est pas un moment de la vie. Il y aurait l'enfance, la jeunesse, la vie active, etc. Bon. Non, non, pour lui, c'est un lieu. L'enfance est un pays. On a cette nostalgie qui sera jamais satisfaite. On va jamais retrouver notre enfance. Mais on sera tout le temps accompagné de cette image, parfois idéalisée, de la maison natale. Et donc, on a besoin de cette image. N'oublions pas, Bachelard l'a repéré, hein, que le mot « image », c'est l'anagramme de magie. On a bien là quelque chose qui nourrit notre inconscient, qui nourrit aussi notre imaginaire.
Et cela va à l'encontre, on le verra dans cette série d'ailleurs, Thierry Paco, je peux déjà vous le dire, de pas mal de points de vue, notamment de géographes, pour qui aujourd'hui on habite le monde, c'est pas forcément...
J'ai pas polémiqué, mais je suis en désaccord total avec tout ce courant assez français du reste de géographes qui habitent le RER, qui habitent le tourisme, qui habitent une station spatiale, qui habitent ceci ou cela. Enfin, on peut dire ça, bien sûr, mais je préfère dire qu'on réside ou qu'on loge ou qu'on demeure. Mais habiter, je réserve ce terme, peut-être parce que je viens de la philo, à une dimension existentielle. Et donc, je ne peux pas existentiellement habiter un RER. Ce n'est pas envisageable.
Ou un autre pays, parce que vous y allez souvent, c'est plutôt vers cela que ça va, non ?
Non, par contre, puisqu'il nous faut parler d'aujourd'hui, effectivement, et le vocabulaire de notre monde numérique est éloquent, puisque nous avons un portail, nous avons une adresse, nous avons une fenêtre, nous avons un site. Donc il y a tout un vocabulaire de l'informatique qui emprunte au vocabulaire précédent, c'est-à-dire celui tout simplement humain, d'être de quelque part et se rendre d'ici à là. Eh bien, je crois qu'effectivement, on peut, par Internet, avoir une géographie hors sol, une géographie affective, qui nous oblige à relire Heidegger et Bachelard, par exemple, parce que eux n'avaient pas intégré cette dimension-là. Donc je crois que j'habite ma langue, mais ma langue est aussi chahutée par l'introduction du vocabulaire informatique, et puis je passe énormément de temps devant mon ordinateur, je communique à d'autres, donc j'échange avec ma langue, avec d'autres qui parlent ma langue, donc je vois bien que pour habiter le monde, pour habiter ma propre existence, eh bien je vais, à un moment donné, user de cette technologie.
Mais je ne vais pas habiter le RER.
Mais je ne vais pas habiter le RER.
Eh bien, nous aurons d'autres points de vue. On doit les recevoir d'un géographe, Olivier Lazzarotti, vous connaissez bien, et qui effectivement défend autre chose. On le verra. Donc, votre vision. D'abord, on habite sa langue. Vous n'êtes pas le seul à le dire, bien sûr. Hein. On doit, au fond, l'occuper. Quoi. On doit la défendre aussi, cette maison. En fait, on ne sépare pas le lieu et le temps.
Non,
vous avez parlé des souvenirs de l'enfance.
Alors, bon, là, il faut préciser une chose très très importante, c'est que Bachelard, qui aurait bien voulu, je crois, au fond de lui, titrer son livre « Psychanalyse de la maison », mais il avait eu plein d'ennuis avec les psychanalystes lorsqu'il avait écrit « La psychanalyse du feu ». On s'était moqué de lui, on va pas mettre le feu sur un divan qui va nous raconter son enfance. Bon, donc il a choisi le mot poétique, qui est très beau, mais c'est pour inventer une nouvelle manière de réfléchir qu'il appelle la topoanalyse. Et la topoanalyse, ça vient de topos, le lieu, c'est l'analyse du lieu. Et il dit que la topoanalyse serait l'étude psychologique systématique des sites de notre vie intime. Donc on voit bien que pour lui, on ne peut plus parler de ses propres pathologies, de ça, ou même de son plaisir, sans le situer dans quelque chose qui serait sa maison, qui serait un lieu particulier, et ce lieu serait une sorte, j'invente cette expression, d'éponge à souvenirs. C'est-à-dire que me remémorant le lieu dans lequel j'ai vécu ceci ou cela avec un tel ou une telle, eh bien, ça déclenche ma mémoire. La mémoire qui est sélective et qui a besoin d'un lieu pour pouvoir à nouveau être mobilisée.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divac sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements, petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, et le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit.
Et c'est Benabar qui parle de la maison. On va voir ce que vous en pensez, Thierry Pacaud. Dans notre série Habiter, demeurer, se loger, la maison miroir de soi, avec vous qui êtes donc philosophe de l'urbain et qui nous avez déjà évoqué deux grands penseurs de l'habitat, Heidegger, Bachelard. Nous allons arriver à l'époque contemporaine. Que pensez-vous de cette chanson?
Cette chanson pointe une chose très juste, c'est que la maison est vivante. Et donc, sa configuration interne, l'affectation des pièces à une destination particulière, la chambre des enfants, la chambre des parents, etc., peut changer. Quand les enfants s'en vont, là c'est le cas, ils en font un bureau ou des chambres d'amis. Ça c'est très important parce que il ne faudrait pas avoir une pensée fixiste du chez-soi. C'est pas quelque chose qui serait contraignant et qui n'est pas non plus lié à sa dimension. Parce qu'on pourrait dire, oui, une maison étroite rend les gens étroits dans leur tête, une maison très vaste, les gens généreux et ouverts, ce n'est pas le cas. Moi, je connais des gens qui ont des immenses appartements et qui sont pas sympathiques du tout.
Bon. Et qui sont très malheureux.
Et qui sont en même temps très malheureux. Alors là, ça me permet d'évoquer un psychanalyste anglais qui s'appelle Donald Winnicott, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Jeu et réalité », dont le sous-titre est « L'espace potentiel ». Et lui, il explique que les enfants ont tous des objets transitionnels, par exemple un doudou ou une tutute, dont ils se séparent jamais. Eh bien, ces objets-là participent finalement de la maison. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est un lieu intime pour eux. Et s'en séparer, ce serait se retrouver à la rue. J'y vais un peu fort, mais c'est un peu ça. Je crois que ça, c'est très très important de montrer que dans notre psyché, ça n'avait pas échappé à Freud non plus, la maison réel ou fantasmé, occupe une place de choix. Quand je sais que la Terre, aujourd'hui, sera peuplée par 10 milliards de personnes en 2050, et que parmi ceux-ci, 3 milliards seront des bidonvilloises et des bidonvillois, je ne peux pas faire l'économie de la réflexion sur habiter, en le distinguant évidemment du logement et Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être dans le plus grand bidonville du monde à Bombay, Dharavi, ou dans celui de Nairobi, c'est-à-dire d'être dans un lieu hostile, d'une très grande violence, absolument pas reconnu par les autorités, donc vous êtes stigmatisé par ceux qui devraient au contraire vous tendre la main pour vous permettre de vous loger décemment. Donc là, on a une crise existentielle qui n'est pas simplement attribuée à un logement. Je vous raconte cette anecdote. Après un tsunami, je crois en Thaïlande, une ONG suédoise avait très généreusement envoyé des maisons en bois en kit. Mais ces maisons en bois en kit étaient faites comme des cabanes de chasseurs ou de pêcheurs pour les Suédois. Ne prenez pas en compte la dimension genrée. Ne prenez pas en compte la dimension d'orientation de la maison. Une maison, pour les Thaïlandais, cette pièce est occupée par les femmes et pas par les hommes. L'organisation de la charpente renvoie à une analyse du genre, c'est-à-dire homme-femme dans la maison, etc., etc. Donc tout ça, c'est
donc
cette dimension.
Ils ne les ont pas occupés.
Ils ne les ont pas occupés. C'est devenu des bungalows pour touristes. Je veux dire, ça renvoie à une approche qui est très intéressante parce que ça montre que occidentaliser ou uniformiser l'habitat comme on tend à le faire, c'est ce que Yvan Illich appelle finalement l'universalisation du garage et non pas de la demeure.
Alors Yvan Illich, justement, c'est encore un de vos favoris, que vous aimez citer, L'art d'habiter. Il s'y est intéressé, lui.
C'est un magnifique texte. C'est une conférence qu'il prononce en 1984 pour les 150 ans de l'Institut Royal des Architectes Britanniques. Là, on est dans le top, hein, chic et tout. Et puis, Ivan Illich arrive, et un peu comme Heidegger à Darmstadt qui dit « il n'y a pas de crise du logement bon. ». Lui, il dit « la question de l'habiter ne relève pas du tout des architectes, qui s'occupent de ce qu'ils regardent, mais qui n'essayent pas de doter les individus les uns les autres d'un habitat pour être habités, ce n'est pas leur boulot ». Et il a cette phrase que je connais quasiment par cœur, « habiter, dit-il, c'était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage ». Donc pour Illich, habiter, c'est un peu heideggerien de cette manière, pour habiter, il faut qu'il y ait les communaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des terrains qui soient à personne, c'est-à-dire à tous, et qui permettent à chacun de trouver sa place. Cette dimension de demeurer en inscrivant sa propre histoire dans un lieu est contradictoire avec le fait que dorénavant, même le plus démuni ne peut pas construire son abri. Il doit accéder à un logement par le marché. Donc on est sans cesse dépossédé de notre manière d'être au monde.
On ne peut pas la décider, voilà. C'est ce qui
on ne peut pas la décider. Oui. C'est pas par hasard si le maître mot d'Illich, à part la convivialité qu'on lui attribue à juste titre à chaque fois qu'on l'évoque, c'est la notion d'autonomie. Pour être autonome, moins migrant, pour être autonome, moins SDF, etc., ou habitant inclus, il me faut avoir la liberté de faire ou de faire.
Mais vous allez plus loin que ça, Thierry Pacaud, et c'est moi qui vous cite. Vous avez parlé SDF, bien sûr. Mais gilets jaunes également, c'est votre point de vue, les gilets jaunes aussi ont une manière de revendiquer.
Absolument, bien sûr, je crois que les gilets jaunes, bon, indépendamment de quelques bêtises homophobes, etc., d'abord se retrouver sur le non-lieu par excellence, le truc le plus inutile qui soit, qui est le rond-point, qui est un truc moche, coûteux, sans aucun intérêt, qui n'est pas un carrefour, attention, hein, ça n'est pas pareil. Il y a un dieu pour les carrefours, mais il n'y a pas de dieu pour les ronds-points chez les Grecs. Eh bien, le rond-point, c'est un non-lieu, et dans ce non-lieu viennent les non-personnes dont la parole est une non-parole. D'une certaine façon, symboliquement, c'est très fort, parce que ils ont perçu, je ne sais pas si c'était volontaire, mais ils ont perçu que pour pouvoir se faire entendre, eux, qu'on considère ne pas avoir de point de vue, il fallait occuper un non-lieu et en faire un lieu de la parole libérée. Alors c'est tout à fait notre démarche que les places du printemps arabe. Là, il fallait reconquérir les places du printemps arabe pour montrer au pouvoir que ces places n'étaient pas des lieux de manifestation du pouvoir militaire lors de parades, mais que le peuple y venait. Et là, ça pose une question de fond, c'est que pour habiter, et ça c'est aussi chez Heidegger, je le trouve, il faut être avec et parmi. Or, par mon ordinateur, je peux être avec. J'envoie un message, je signe une pétition en ligne, etc. Mais je ne suis pas parmi. Donc, à un moment donné, il y a la revanche du lieu qui exige notre présence physique, charnelle, spirituelle.
Mais ça va plus loin. Je reste sur les gilets jaunes, mais je reste aussi sur ce que vous en dites. Hein. C'est aussi, on veut habiter là où nous avons choisi et on ne peut pas.
Évidemment,
toute la question du transport, du coup des maisons qu'on n'a pas choisies.
Pour l'instant, le seul lieu qu'on
c'est une des revendications, mais vous l'avez pointé.
Oui. Tout à fait juste, c'est-à-dire que on a un déménagement du territoire qui va dans le sens, on l'a bien vu, hein, de réduction des nombres des régions, de réduction des nombres des villes. On métropolise, c'est-à-dire qu'on agglomère, et ceci va, à mon avis, à l'encontre du désir des habitants, qui est de pouvoir choisir leur lieu de résidence. Et ça, je pense que c'est un choix tout à fait légitime. Je crois même que nous avançons, c'est contradictoire, d'un côté, il y a le Grand Paris, il y a le Grand Bordeaux, il y a le Grand Lyon, il y a le Grand ceci, le Grand cela, et de l'autre côté, il y a ces revendications plus territorialisantes de ces gilets jaunes, qui étaient déjà des revendications de gens comme Bernard Charbonneau, de gens comme Henri Lefebvre, etc., qui voulaient lutter contre l'urbain généralisé, par une espèce de réaffirmation territorialiste.
Du territoire, le goût du territoire.
Voilà, la conscience du lieu, comme dirait Alberto Maniaghi, un autre ami à moi.
Alors Thierry Pacaud, vous êtes en train au fond de montrer toute la crise du capitalisme moderne, contemporain, qui est venue justement bousculer ce goût du chez-soi, de l'habiter où on veut, qui existait du temps d'un autre capitalisme plus ancien, celui du 19e siècle, qu'il ne faut peut-être pas mettre en exemple, mais où on était vraiment de quelque part.
Vous avez tout à fait raison, le capitalisme...
Au fond, c'est le capitalisme mondialisé qui vient contre...
Voilà.
Qui vient,
le premier capitalisme, on va l'appeler comme ça.
Le premier.
Le premier, il avait besoin de rendre dociles des ouvriers, malgré eux, qui sont des paysans, généralement, pendant la morte saison. Et donc, discipliner la classe ouvrière, pour prendre des formules un peu chocs, exigeait de les loger dans des cités ouvrières, de leur imposer des rythmes de la vie quotidienne avec la sirène de l'usine, etc. Et donc, il fallait que l'encadrement reste sur place. Et même le patron de l'usine, je pense, parce qu'on associe tout de suite ces grosses usines à des lieux. Le Creusot, c'est Schneider. Peugeot, c'est Montbéliard et Sochaux. Michelin, c'est Clermont-Ferrand, etc. Et ça, c'est partout dans le monde. Pour Portland, pour Détroit, c'est l'industrie automobile, etc. Ces industriels-là, eux-mêmes, épousaient une fille
une famille
d'une famille aisée, évidemment, du lieu, fondait le Lions Club, devenait élu de la municipalité, voire même député, etc. Il y avait une sorte de volonté de valoriser le territoire dans lequel on avait inscrit son usine. Aujourd'hui, on est à une époque de précarisation généralisée. On précarise les emplois, on multiplie les stagiaires, on multiplie la précarité, etc. Et on précarise le territoire. Et donc, en caricature un peu, je dirais qu'un jeune ingénieur qui devient chef de la production chez Michelin à Clermont-Ferrand, il ne réside pas à Clermont-Ferrand, il habite Paris. Voilà, il a un abonnement de train au mieux, et puis le week-end, il va avoir une expo à Amsterdam ou à Londres ou à Prague. Et puis, dans sa tête, il est déjà dans son futur poste, à Dubaï ou à Shanghai. Donc, il y a une sorte de, non pas de mépris, mais d'indifférence par rapport au lieu, qui fait que un lieu envoie un autre, ce qui est fondamentalement faux, parce que chaque lieu est imbibé de l'amour de tous les gens qui ont vécu là, vis-à-vis de ce lieu, de sa géographie, de sa climatique, et évidemment de son imaginaire. Eh bien, tout ça est gommé parce que le territoire rêvé de ce capitalisme globalisé, c'est un plateau technique sur lequel je branche un TGV, un CHU, un laboratoire de recherche, etc. Ça marche plus, toc, je déménage et je vais ailleurs. L'être humain, dans sa longue histoire de son inscription dans le territoire, ne va pas n'importe où, n'importe comment.
Mais il résiste, non ? Il y a des résistances en ce moment.
Les gilets jaunes sont une forme de résistance à ça.
Les jeunes ?
Les jeunes aussi, bien sûr. Alors là, vous ouvrez la porte à un sujet gigantesque.
Ouais, bien sûr,
c'est
que
les enfants et les jeunes sont les oubliés de tout l'urbanisme et de toute l'architecture. On s'en fout totalement. On leur demande jamais leur avis. On fait des cours de récréation minéralisés. Enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est tragique. Donc je pense que les enfants devraient se bagarrer. Je lance un appel aux enfants. Bagarrez-vous contre les adultes pour modifier la ville, pour que la ville devienne une ville récréative, à votre taille, à votre dimension, à vos désirs de courir, à vos jeux. Et les adolescents sont scotchés finalement dans des lieux inhospitaliers parce que l'adolescence, c'est un entre-deux. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, psychologiquement parlant, bien sûr. Et en même temps, dans leur désir d'avoir un lieu à eux. Ils n'ont que le choix que de l'appartement familial.
Ça veut dire qu'ils peuvent contester l'habitation, justement, la maison ?
Ils devraient faire leur lieu à eux.
Oui.
Il ne faut jamais que la chambre des parents joue que la chambre des enfants ou de l'adolescent. Il faut qu'il y ait un couloir entre les deux. Il faut qu'il y ait une distanciation qui va être bénéfique à la relation. Il ne faut pas que l'adolescent se sente surveillé. L'adolescent doit pouvoir avoir son chez-soi dans le chez-soi d'un autre qui est ses parents. C'est pas facile.
Est-ce qu'il y a des sociétés qui réussissent mieux que d'autres ? Là, on parle beaucoup de la situation française ou peut-être occidentale, européenne, qui réussissent mieux à maintenir dans le contexte contemporain que vous décrivez, qui est quand même assez sombre, à maintenir cette notion d'habiter, de garder le temps et le lieu en même temps.
C'est difficile pour vous répondre, parce que je ne connais pas assez bien d'autres cultures. Je sais qu'il y a d'autres cultures où, par exemple, il n'y a pas d'affectation systématique et définitive d'une pièce. L'usage de la pièce change selon les saisons, par exemple. Dans la maison typique du Maghreb, il n'y a pas la chambre des parents, la chambre des enfants, la salle à manger, la cuisine. Il y a le patio, et puis autour, selon le nombre d'habitants à ce moment-là, selon l'heure de la journée, on y sieste, on y cuisine, on socialise quelque chose ou pas. Non, je crois que, pour vous répondre, je crois que, y compris en France, il y a des micro-réalisations où les gens habitent. Oui, je crois ça. Et ça va se démultiplier. Je pense que des... Je vais pas faire l'apologie de la ZAD, mais de certaine manière, si. C'est-à-dire que je pense que des zones à défendre avec d'autres formes que celles de Notre-Dame-des-Landes, évidemment, sont en train d'émerger comme ça un peu partout. Tous ces minuscules, entre guillemets, parce que c'est pas péjoratif du tout, qui sont pour moi, sont des espérances.
Thierry Pacaud, pour aller un petit peu plus loin sur ce qui peut se passer aujourd'hui, donc vous décrivez effectivement une situation un petit peu sombre sur ce mode d'habiter. Est-ce qu'il peut prendre d'autres formes? Alors, on va en parler au cours de la semaine, l'habitat participatif, les différentes formes, les choix. Mais philosophiquement, est-ce que habiter peut vouloir dire autre chose? Habiter le monde, c'est aussi un titre d'un de vos ouvrages que vous avez
écrit
avec Michel Lussault.
Pour habiter...
Qu'est-ce que ça veut dire habiter le monde pour vous quand on parle de tout ce que vous décrivez là, l'attachement au lieu unique, à sa langue?
C'est pas un attachement qui est restrictif, qui est contraignant. Enfin, j'espère que non. C'est-à-dire que pour être bien n'importe où, il faut déjà être bien quelque part. Voilà, en gros, c'est ça. Heureux les enfants qui ont été aimés par leur mère déjà, moi. Et ensuite qui ont eu un lieu à eux. Une chambre à soi, dit Virginia Woolf. Donc il nous faut ça. Et puis après, quand on est doté de ces deux qualités-là qui sont pas partageables et partagées non plus systématiquement, eh bien on peut habiter, j'allais presque dire, n'importe où. Mais habiter, vous avez raison, ce n'est pas l'habitat participatif, ce n'est pas le fait de partager une maison commune ou la colocation. Habiter renvoie, je l'avais dit, à une dimension existentielle, c'est-à-dire que ça prend en considération aussi bien votre chronobiologie, aussi bien votre travail... votre occupation, et dans un monde où on précarise le travail, vous n'avez plus cette dimension d'autonomie. Ceux qui vont finalement jouer le pari d'habiter le monde et d'habiter la Terre, c'est ceux qui vont rompre avec le système dominant et qui vont, non pas tout seuls, mais à quelques-uns, ici, construire leur maison, cultiver leur jardin, non pas comme Voltaire l'avait laissé entendre, pour plus s'occuper des affaires des autres. Non, parce que cultiver son jardin, c'est tout simplement se cultiver soi, parce que le jardin vous cultive. Il faut jamais oublier cette autre dimension-là. Il y a une sorte de réciprocité de l'amitié des lieux. Je crois qu'il nous faut rentrer dans ce que Bachelard avait appelé, du reste, la topophilie.
Il y a aimer le lieu.
Une toute jeune revue de jeunes étudiants en architecture qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Topophile. Cette revue Topophile essaie de montrer, enfin j'espère du moins, à quel point tout n'est pas perdu. Il nous faut tenir tous les bouts ensemble. C'est pour ça que le devenir urbain du monde et de la condition humaine d'habiter la Terre ne peut reposer que sur l'écologie. L'écologie entendue comme un chemin au sens grec de odos, qu'on va retrouver dans méthode, le chemin du connaître, qui est systématiquement processuel, transversal et interrelationnel. Tenir ces trois éléments-là, qui sont constitutifs de notre rapport au monde et aux êtres et aux gens, exige de rompre avec ce capitalisme globalisé.
Comment jugez-vous aujourd'hui l'architecture, l'urbanisme? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on enseigne tout ça aux futurs architectes, aux futurs urbanistes? Est-ce qu'eux-mêmes font pression pour cela?
Très, très modérément. Il y a un décalage entre les enjeux urgents, liés à l'écologie, et l'écologie dans sa dimension que moi j'appelle l'écologie existentielle, que j'appelle à créer. Cette dimension-là, elle est décalée. Les enseignants enseignent ce qu'ils ont appris, généralement. Par contre, il y a une multitude d'architectes, pas forcément jeunes, qui vont... malheureusement dans leur coin ou dans leur réseau, se préoccuper des matériaux. Ils vont plus utiliser le béton, ils vont plus utiliser l'acier, le vitrage, ils vont valoriser la terre crue,
le bois,
la paille. Je vois partout surgir des mouvements comme ça, et ça c'est réjouissant.
Ça c'est quand même très important.
Bien sûr.
Et les étudiants, pour revenir à eux.
Il y en a de plus en plus qui, alors ils contestent pas leur école, ça va arriver, j'espère. Mais voilà, ils subissent, ils suivent ce truc, mais. À côté, c'est depuis quelques années, ils font un tour de France, par exemple, pour certains, je pense au collectif ETC, mais il y en a d'autres, qui vont aller voir en France des architectes dont on n'aura pas parlé pendant leurs études, qui ont justement essayé d'inventer quelque chose d'autre dans une autre région, dans un autre rapport au lieu et au territoire.
Alors vous avez parlé du jardin sans dissocier donc la construction du paysage, de la nature,
je ne sais pas comment
la nommer.
Oui, mais tout ça va ensemble.
Mais ce n'est pas toujours aller ensemble.
Mais non. non, bien sûr que non, bien sûr que non. Quand vous pensez qu'il y a encore des promoteurs, je tairai les noms, qui vendent des pavillons vraiment nullissimes, moches, enfin trop petits exigus, avec des jardins privatifs, ils appellent ça comme ça, des jardins privatifs de 8 mètres carrés.
Et moi, j'imagine. C'est pas bien ça, non ? Non, mais c'est un début, c'est pas bien.
Non, mais peu importe. Mais je veux dire par là que il n'y a pas de maison sans jardin. Ça, c'est le grand apport de Gilles Clément. Le jardin est la première pièce de la maison. On ne peut être accueilli quelque part que si déjà on est en amitié avec la faune et la flore. Parce que nous allons adapter notre rythmique à leur propre rythmique.
Alors le jardin de 8 mètres carrés ?
C'est trop petit ! Ça n'a aucun sens. Ou alors on met des bonsaïs, mais ça ne va pas. Imaginez qu'il y a 150 petits pavillons tous semblables, avec 150 petits jardinets nuls, avec 150 tondeuses à gazon, 150 barbecues, 150 trampolines. Tout ça n'a aucun sens. Il faut repenser justement ces 150 maisons, par exemple, en les mettant autour d'un parc commun,
le jardin
gigantesque,
partagé.
Avec un terrain d'aventure pour les enfants, etc., etc., etc.
Et là, ça change tout pour vous.
Et ça change tout, bien sûr.
Parce que la maison, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la rue qui peut être plus ou moins avenante, c'est aussi le mobilier.
Il faut
le
plus
mobilier
que les bâtiments
urbain,
soient en façade sur la rue. Il faut laisser un frontage, il faut laisser un entre-deux, il faut que ça pousse, il faut que ça jaillisse, il faut qu'on puisse jeter sa bicyclette là, courir. C'est pour ça qu'il faut que les enfants revendiquent.
Végétaliser la ville, par exemple, c'est une bonne idée ?
Ça va de soi, et du reste, c'est pas nouveau. Je vais pas parler des jardins de Babylone qui n'étaient pas à Babylone, mais peu importe. Non, il faut, oui, vous avez raison, il faut massivement planter. Les forêts urbaines, c'est une très vieille histoire. Hein. Et évidemment, mettre 3 arbres devant l'hôtel de ville à Paris et appeler ça une forêt, c'est d'un ridicule inouï, mais bon, le ridicule ne tue plus, heureusement, peut-être. Non, il faut planter. C'est-à-dire que moi, je rêve pour Paris, par exemple, qu'on déménage le parc des expositions de la porte de Versailles, et que là, on plante.
Une forêt, une vraie.
Une vraie forêt. Et ceux qui feront ça, on en parlera encore dans 3 siècles, si la Terre tourne.
Ça se fait dans certaines villes un peu plus ?
Non, on est très très frileux là-dessus. Et puis parce que le sol n'est plus disponible. Le sol a été bétonné, le sol a été pollué, le sol a été surchimisé. Donc il faut d'abord, et c'est un boulot inouï, parce que l'arbre est notre ami, mais on ne peut pas lui donner un bac pour vivre. Un conteneur, un garage, hein, comme les humains. Donc, aimer un arbre, converser avec lui, l'adopter, c'est de lui donner le mieux.
Et c'est habité.
Et c'est habité.
Merci Thierry Pacaud.
Merci.
Habiter, demeurer, se loger, c'était donc la première de notre série de cette semaine, La maison miroir de soi avec le philosophe Thierry Pacaud. Nous reviendrons sur plusieurs aspects des points qu'il a traités avec géographes, sociologues, urbanistes, architectes, justement, et nous parlerons aussi de ceux qui n'ont pas d'habitat. Merci à tous et merci à notre petite équipe. Anne-Laure Chanel réalise l'émission avec Mathieu Leroux ce soir, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, et Justine Ville, notre stagiaire vigilante sur Internet, tenait Thierry Pacaud. Bonsoir à tous, à demain.